Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant qu'auteur, en tant que personne aussi. C'est une femme au grand cœur, comme le sont souvent les gens du Nord. Vous savez, on dit souvent que les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Au travers de cela, elle nous raconte toujours de belles histoires, nous fait voyager, mais toujours avec cette histoire, c'est toujours pointu, bien détaillé. Quelle que soit l'époque, eh bien, nous nous instruisons grâce à elle, pardon, et puis elle sait nous parler de ce Nord avec tant de finesse et tant d'amour. Les deux livres dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est l'une de ses héroïnes dont elle s'est également si bien parlé, qui nous fait traverser le temps. Ce sont des héroïnes que l'on retrouve, ces femmes de grand courage. Et un certain Michelet a dit que les femmes du Nord valaient bien un homme, voire plus. Nous allons également parler de tous ces gens qui ont aimé le Nord, qui ont parlé du Nord, Hugo, Voltaire et bien d'autres. Donc je ne vous fais pas plus patienter, chères auditrices et auditeurs. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter Annie de Groot. Bonjour Annie de Groot.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes. Je le disais, pour deux ouvrages aujourd'hui, La Kermesse du Diable aux éditions Presse de la Cité, et puis Ils ont aimé le Nord. Alors, vous êtes un écrivain avec une liste non exhaustive dont je vais énumérer quelques romans. Je les ai tous lus et je peux vous dire à tous, si vous ne les connaissez pas, de les lire. Alors, il y a D'infinies promesses, il y a L'oublié de Sal Perwick, il y a Les amants de la petite reine, il y a Les perles de la Moïka, L'étrangère de Saint-Pétersbourg et bien d'autres, j'en oublie, mais voilà, tous ces romans sont magnifiques. Pour beaucoup, ont été primés et puis, certains nous emmènent dans la Russie du fin 19e, début 20e, d'autres histoires contemporaines ou d'autres encore dans les Flandres qui vous sont si chères, de Sal Perwick à Cassol, en passant par Lille. Voilà.
Merci, je suis très touchée.
Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec La Kermesse du Diable. Oui. Alors, c'est une réédition, si ma mémoire est bonne. Il a été écrit en 2009, c'est ça
Oui. Oui, oui. Il a été écrit avant même.
Avant
mais,
même,
oui. Oui, oui. Mais en fait, La Kermesse du Diable a été écrit, il est sorti en 1994, donc vous voyez.
Oui.
Et c'était mon premier roman qui a été primé. Il a été primé 4 fois. Et j'ai reçu tellement d'encouragement, tellement de gens de belles critiques que cela m'a énormément encouragée à continuer. Et c'est un roman pour moi qui est un peu un roman qui m'a porté chance. Et donc mon éditrice ici, Clarisse Hénaudot, a dit il faut absolument le ressortir. Parce que bon, beaucoup de gens m'ont connu petit à petit au travers de mes romans, mais ne connaissaient pas La Kermesse du Diable. Mmh. Et qui, voilà, donc c'est comme cela qu'il est ressorti, avec bien sûr une nouvelle couverture, avec une nouvelle que j'ai introduite en fin de roman.
Oui.
Et c'est un roman qui se passe au XVIIe siècle.
1657.
Exactement. Donc, nous sommes encore en Flandre espagnole.
Oui.
Et ça va être au moment où, d'ailleurs, Louis XIV va venir conquérir cette Flandre en disant « Mais c'est mon héritage, c'est l'héritage de ma femme. » Donc, voilà, il va faire le siège de Lille. Et nous suivons une jeune fille.
Renelde,
qui est une fille de brasseur, donc une bonne bourgeoisie, bonne bourgeoisie.
Oui, parce que les brasseurs étaient très importants, c'était une communauté très importante.
Oui, très importante et j'allais dire proche déjà de cette bourgeoisie qui voulait accéder à la noblesse.
Oui.
Et c'est d'ailleurs ce que désire le père. Et il va la marier à un noble
désargenté.
Qui a son âge, désargenté, qui a son âge, donc qui est quand même âgé, et que Renelle n'a absolument pas du tout choisi.
Oui. Alors, elle vient de quitter le couvent, comme toute bonne jeune fille de la bonne société, pour son éducation, elle vient de quitter le couvent. Voilà.
le couvent des Ursulines, où elle a appris la dentelle, qu'elle avait déjà appris avec sa grand-mère, qui est absolument merveilleuse, voilà. Et donc, elle est mariée contre son gré. C'est une descente aux enfers pour elle, c'est terrible. Et puis, bon, il va se passer beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire. Parce que j'espère.
Il faut laisser aux auditrices et aux auditeurs le loin. Mais elle va créer aussi une sorte de petite société pour les orphelines, pour toutes ces jeunes filles déshéritées. Et ça va devenir des dentelières, une belle société de dentelières.
Exactement. Elle va mettre à profit tout ce qu'elle avait appris. C'est de façon fortuite, elle va rencontrer une petite jeune fille qu'elle va un peu sauver, qui est orpheline, et avec elle, et un peu, j'allais dire, grâce à elle, et puis elle va fonder cette école de dentelle, et dans laquelle les dentelières ne seront pas obligées de, j'allais dire, croupir 10 heures par jour dans une cave humide, et perdre à la fois leurs yeux et leurs membres de rhumatisme et tout ça, et donc il fait bon vivre chez elle. Il faut dire entre-temps que
elle va rencontrer un monsieur assez étrange aussi
également, qui est considéré comme un hérétique.
Tout à fait. Alors il faut rappeler que 1657, on est en plein chasse à la sorcière, au niveau de...
Oui, absolument. Et donc, d'ailleurs, après, Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes.
L'édit de Nantes, tout à fait.
Donc, ça recommence, j'allais dire, entre les catholiques et les protestants. Et puis, il faut dire que nous sommes en pleine contre-réforme catholique.
Oui.
Après la réforme, en pleine contre-réforme. Et donc, tout s'est renforcé au point de vue catholique. On a effacé un peu tout ce qu'on voulait absolument plus entendre parler des protestants. Et il y a, avec la réforme, il y a énormément, par exemple, de livres interdits. Oui. La censure est terrible. Oui. Et donc, les gens ne sont pas libres. Et les gens ne sont pas libres parce que de toute façon, ils auront leur salut et leur paradis au ciel, donc sur terre, peu importe. Mais s'ils donnent des indulgences, les indulgences, c'est-à-dire si on paye des dîmes et on donne beaucoup d'argent à l'Église à cette période-là, on peut atteindre le paradis.
Oui. Alors, dans les livres interdits, il y a le livre d'Érasme, qui se donne sous les manteaux, c'est-à-dire qu'on vend une grammaire et puis sous le manteau, en échange de la grammaire qui a été achetée un petit peu avant, on livre et il y a une véritable chasse à la sorcière concernant, entre autres, ce livre Érasme.
Érasme, qui était quand même un philosophe assez extraordinaire. Il était du XVIe siècle, il a été début XVIe, il a été, bien qu'il soit proche de Charles Quint, il était quand même pour la tolérance entre les religions et les gens, et ça a été un humaniste extraordinaire.
Et il y a Jean de Genève aussi, qui a été très proche de Calvin, justement, à cette même époque.
À cette époque-là.
Alors, Renelde fait partie de ces femmes dont vous parlez tout au long de vos romans. C'est une génération, c'est les Van Eyck, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et on les retrouve avant, pendant et après. On retrouve cette lignée dans d'infinies promesses. Là, il y a les Brasseurs, ce sont aussi des maîtres verriers. Elle fait partie de ces femmes où les femmes ont un pouvoir énorme, où ce sont des femmes courageuses et des femmes qui prennent leur destin en main.
Voilà, parce que ça existait. Ça existait, ces femmes qui ont pris le destin en main. Si nous, aujourd'hui, nous sommes libres, c'est grâce à des femmes qui ont pris leur destin en main. Et donc, ces femmes, elles ont voulu combattre absolument et ne pas rester dépendantes d'une société qui, déjà au XVIIe siècle, j'ai employé cette image, elle les corsetait,
Tout à fait.
Vraiment. Donc, au XVIIe, et que l'on retrouve beaucoup après au XIXe siècle.
Oui, dans L'Étrangère de Saint-Pétersbourg, on retrouve la famille Van Eyck.
Oui, exactement, comme la splendeur des Van Eyck,
Comme la splendeur des Van Eyck.
Ce ne sont pas toujours des descendants. Là, ici, elle est on croit qu'elle est un peu descendante
oui.
du peintre Van Eyck,
oui.
qui est d'ailleurs au personnage dans d'infinies promesses,
oui.
le peintre.
Mm-hmm.
Et chez les Van Eyck du 19e siècle, bon, c'est un nom, j'allais dire, plutôt commun dans
oui.
les Flandres. Hein.
Oui.
Et donc, là, le père dit qu'il est un descendant. Ça,
oui.
c'est très, très.
Oui.
Comme on le connaît à ce moment-là, oui. le peintre, c'est très bien de dire qu'on
oui.
est un descendant.
Oui. Alors, il y a aussi, par exemple, je prends dans l'exemple de Moulin de la Dérobade, on retrouve
oui.
cette famille de brasseurs. Hein, ils ont un café, vous disiez, très importante famille.
Oui.
Oui.
Voilà. Une famille de brasseurs, effectivement,
mmh.
qui a un café.
Mmh.
Bah, ça a les deux pères, hein, souvent
oui.
les estaminets et les brasseurs
tout à fait.
Qui travaillaient ensemble
oui.
en Flandre, dans tout le nord de la France et
mmh.
la Belgique. Et là, nous sommes avec Ronald à une époque où la Flandre est très grande encore.
Oui.
Ce sont les Pays-Bas espagnols et Louis XIV a très bien compris l'intérêt de les prendre parce qu'en fait, c'est une région qui a été souvent, j'allais dire, même jusque de nos jours, un peu méprisée.
Oui, entre le Nord, le Ch'ti, voilà,
voilà,
c'est vrai que le regard sur le Nord est à mon avis tout à fait faussé. Et ce qui
oui.
est bien au travers de vos livres, au travers de vos personnages et de ces femmes, voilà, on se dit, mais c'est. Enfin, on a envie, enfin, moi, depuis que je lis vos livres, j'ai qu'une envie, c'est la Selle Perwick, à Cassel. Et...
Ben venez, allez-y. Avec plaisir. Mais et vous savez, ces femmes, oui, le Nord, je disais, a été convoité par Louis XIV. Pourquoi ?
Oui.
Parce que c'était une région très riche,
oui.
toute cette Flandre.
Mm-hmm.
C'était une région riche et qui a été, oui, de tout temps, elle a été convoitée quand même.
Mm.
Et traversée aussi.
Et, oui, oui.
Et pourtant, méconnue.
Et méconnue parce que, vous voyez, par exemple, dans L'oublié de Selle Perwick, la vie de ces mariniers que vous racontez, avec ces bateaux, avec la vie dans les marais,
oui.
mais on ne le savait pas. Enfin, moi, je l'ai raconté
oui.
autour de moi après la lecture de ce livre, et c'est impressionnant
oui.
parce que vous racontez une vie qu'on ne connaissait pas et pourtant très importante dans le Nord.
Très importante et qui existe toujours.
Existe
il y a toujours les bateliers et les marais, les marais de Saint-Omer, de Saint-Perwick.
Oui, tout à fait.
Ils existent toujours, ils
oui.
sont là.
Et Saint-Omer,
oui.
belle ville historique.
Hein, très jolie ville historique.
Oui.
Très
oui.
jolie ville historique.
Oui.
Et qui sera d'ailleurs dans un de mes deux prochains romans.
Ah. Très bien, parfait.
Voilà.
Alors, Ronelle, on le disait, donc elle a quitté son couvent, on va la marier
mm-hmm.
Avec... Les jeunes filles ne choisissaient pas, surtout les jeunes filles de la bourgeoisie et de la noblesse ne choisissaient pas forcément
oui,
leur mari.
Non, non, hein. non.
Mais est-ce que malgré tout, comment dire, ces femmes, elles se rebellaient contre ça, puisqu'elle va prendre son destin en main, on le dit, elle va former des petites dentelières, elle va combattre tout ce qui est la chasse aux sorcières, l'injustice, ce sont des,
oui.
des femmes, des combattantes, mais au préalable, elle n'a quand même pas le choix, tout de suite, à un moment
non.
où...
Non, non, au préalable, elle n'a pas le choix.
Mmh.
Elle va le prendre, elle est très jeune aussi, hein,
oui.
quand elle sort du couvent et qu'on la marie.
Mmh.
Donc, elle est très très jeune et elle ne connaît rien, rien, rien de la vie.
Mmh.
Elle ne sait rien, mais alors rien du tout. Elle a appris les rudiments d'écrire, de lire et puis de faire de la couture, de la broderie, de la dentelle
oui.
chez les Ursulines. Mais... voilà, par rapport à son frère, c'est une véritable petite fille. Et puis
oui.
là, elle va apprendre la vie.
Ce
elle
qui...
apprend la vie et là, elle
oui.
prend, elle
oui.
décide.
Oui.
De
moi, ce qui est curieux, c'est que, en règle générale, quand on mariait les filles de la bourgeoisie avec un noble, c'était pour s'enrichir, pour s'élever dans la société.
Oui.
Alors là, il est complètement désarchanté, notre ami.
Oui, parce que, mais pour le père est riche. Le
oui.
père est riche. Il a cette richesse.
Mm-hmm.
Or, il y avait aussi de la noblesse qui était désargentée. Donc, pour lui, ce qu'il veut, c'est des titres,
oui.
le père.
Mm-hmm.
Donc, ben voilà, et le noble est non seulement ravi d'avoir une merveilleuse
belle
jeune fille
instruite
dans son lit, et en plus, voilà, de s'allier à une famille qui a de l'argent.
Mmh, tout à fait. Oui.
Donc, ça se faisait malheureusement aussi beaucoup. Tous les nobles n'étaient pas de grande richesse et chacun cherchait son intérêt aux dépens des enfants. Dépend des enfants. Alors ça se passe vraiment dans les milieux très aisés.
Oui.
Hein. À la limite, il valait mieux être paysan ou paysanne à cette époque-là presque, à condition de ne pas être trop pauvre.
Trop pauvre, oui, bien sûr.
Beaucoup de jeunes paysannes pouvaient choisir leur mari.
Leur mari, oui. Eh bien, ce que nous allons pouvoir choisir, je l'espère, c'est une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Avec plaisir.
Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire, les Flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans mollir, les Flamandes ce n'est pas mollissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied et bon blanc et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents et le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Annie de Groot pour la Kermesse du Diable aux éditions Presse de la Cité. Alors, nous allons également parler de ce deuxième ouvrage, moi qui me tient à cœur parce qu'il parle fondamentalement du Nord, mais au travers des gens qui ont aimé le Nord. Comment s'est passée la construction de ce livre ? C'est par les écrits, vous avez retrouvé ce que disaient les gens du Nord. Comment ça s'est passé ?
Oui, beaucoup. Eh bien, écoutez, ça a été une collaboration donc avec Omnibus, l'éditeur, qui m'a demandé de diriger cette anthologie. Donc, j'ai fait le choix des textes, j'ai fait le choix également en iconographie, c'est-à-dire il y a énormément de tableaux, de gravures
c'est
dedans.
Très bon.
Et puis, toujours, enfin, souvent, on a l'habitude de parler du Nord, mais à partir de soi-même.
Oui.
Moi, je suis du Nord, je parle du Nord en tant qu'auteur, en tant qu'amoureuse du Nord, en tant que fille née là-bas. Et là, souvent, j'ai rencontré dans les écrits des auteurs qui en parlaient d'une façon extraordinaire. Et puis, je voyais des auteurs qui étaient juste passés. On a Dickens qui a adoré passer ses vacances, ses congés, tout ça à Boulogne-sur-Mer. On a Victor Hugo, Verlaine qui parlait du beffroi de Douai comme le plus beau plus beaux mimants voilà, de France. On a énormément, et ça on ne le sait pas, je parlais tout à l'heure de ce Nord qui était un peu méconnu et méprisé, et qui parallèlement a été très convoité. Et là, en fait, ça m'a beaucoup plu de parler du Nord au travers de tous ces gens, des poètes,
des peintres,
de le Moyen-Âge, des peintres, des écrivains, qui, certains sont du Nord, hein, nous avons des grands natifs comme Marguerite Yourcenar,
Jacques Duquesne, grand Jacques Duquesne avec Maria Vandamme, entre autres. Hein,
voilà, absolument. Mmh. Et puis... mais nous avons également donc des écrivains, des poètes et des peintres qui ne sont pas du tout du Nord. Et je pense qu'on rencontre quelques surprises. Nous avons notamment, je parlais de Victor Hugo, de Verlaine, on a Maurice Druon. Nous avons Edith Wharton qui a adoré.
Oui, j'ai été très étonnée de découvrir.
Oui. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai cherché, c'était un petit peu de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que, bon, on va penser tout de suite le Nord, qu'est-ce qu'il a aimé. Bon, alors, La mer du Nord de Jacques Brel.
Oui.
J'ai juste mis, je veux dire, j'ai fait allusion à notre grand Brel pour le Nord au travers d'un des sous-titres, avec le vent, avec le vent du Nord. Avec le vent du Nord. Mais. Ce qui m'a plu, c'était par exemple, prenons par exemple Zola.
Oui.
Zola, on connaît beaucoup Germinal.
Oui. Germinal. La Saumoire, Germinal, oui.
Voilà, mais ce sont des visions du Nord qui ne sont pas, j'allais dire, ça ne montre pas l'amour qu'il a pu avoir pour le Nord. Or, dans ce texte de Kermesse que j'ai mis, on voit également que Zola aimait le Nord. Et donc, j'ai cherché des textes aussi dans lesquels ils ont aimé, ils le montrent.
Voilà. Fait, oui.
J'ai même un abbé, Lemire, qui est très connu dans le Nord et qui a été, en fait, c'est une personnalité un peu oubliée de France, mais qui a eu son enterrement national et qui a été le doyen de l'Assemblée nationale, qui a fait énormément de choses pour les femmes, pour les enfants, d'un point de vue social, qu'on avait appelé un peu l'abbé rouge à un moment, qui ne pouvait plus lire la messe et qui a été... C'est l'abbé Lemire, qui a été une grande, grande figure et qui était assez extraordinaire. On le connaît, quand on le connaît, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, mais on ne sait pas qu'il était un écrivain hors pair. Et ça, je le montre dans un texte de lui qui a un peu un côté, je veux dire, avec cette longue phrase lyrique et qui est d'une sensualité incroyable. Il était prêtre.
Oui. Alors, ce qui est bien aussi dans vos romans, c'est que vous nous parlez des us et coutumes du Nord, c'est-à-dire les festivals, que ce soit au XVIIe, au XVIIIe, XIXe ou XXe. Et là, dans La Kermesse du Diable, il y a cette kermesse pascale qui va être sanglante, finalement, aussi.
Oui, et ça se termine au moment de cette kermesse. Donc, en fait, toute la deuxième partie, j'allais dire, du roman se tient en une semaine pascale.
Oui.
Avec, notamment, on suit, au travers de cette semaine, les différents rituels pascals qui se produisent, avec le jeudi saint, le vendredi, etc. On suit au travers de Renald et de ses dentelières, au travers de l'autre héros du livre, dont je ne vais pas trop parler, parce que ce monsieur est un peu un monsieur mystère.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Et donc, ça se termine à ce moment-là,
Alors, ce sont des romans historiques et souvent je me suis demandé, et notamment quelque chose qui m'a frappé dans D'infinies promesses, tout au début, vous décrivez une fête qui se passe pour élire un personnage important de la ville, avec moult détails, le détail sur les vêtements, sur la procession, les musiques, les personnages. Et je me suis dit, mais ça doit lui demander un travail de fourmi, de recherche et d'études importantes.
Oui, effectivement, parce que Je prends des romans historiques, donc ils se placent dans une période historique. Et je désire absolument que ce soit tout est vrai.
C'est vrai, toujours tout très pointu. C'est ça qui est impressionnant.
Ah, je le désire ardemment. Et donc, je vais dans les archives, je prends parfois conseil auprès d'historiens, voilà, et je vais dans plusieurs sources. Mm-hmm. Parce que même, par exemple, le personnage de Philippe Lebon que j'avais dans D'Infinies Promesses, même les historiens n'étaient pas toujours d'accord entre eux sur le personnage. Mm-hmm. Et je crois qu'en ayant justement lu toutes ces versions, j'ai pu constituer un personnage que je crois assez fidèle à la vérité.
D'ailleurs, on ne l'appelait pas Philippe le Bon du temps de son règne.
Non, pas du tout.
C'était Philippe II, si ma mémoire est bonne.
Philippe III, mais
on l'appelait pas Philippe le Bon durant son règne. Ça a été après.
Non, Philippe l'assurait. Parce qu'il semblait assez sûr de lui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on dirait d'ailleurs même assez zen.
Oui, c'était le fils de Jean Sans Peur, c'est ça ? C'était le fils de Jean Sans Peur, c'est ça.
Voilà, effectivement. Mm-hmm. Et en fait, ce sont les ducs de Bourgogne. Mm-hmm. Et ça va aller jusque Charles Quint, puisque Charles Quint est son arrière-petit-fils. Et donc, Charles Quint va avoir par sa mère, il va avoir le royaume d'Espagne, il finit par avoir en fait toute l'Europe dans son royaume et constitue cet empire.
Tout à fait. Alors vous nous parliez de vos futurs livres qui allaient se passer à Saint-Omer. Alors ce sera pour quand les projets, c'est pour 2019, 2020, alors, vous êtes en pleine écriture alors je suppose.
Je suis en pleine écriture, ce sera pour 2020.
D'accord.
Ce sera pour 2020. Et là, je repars dans un siècle dont je n'ai pas encore parlé.
Ah.
C'est le 16e siècle.
D'accord.
Le 16e siècle, qui va d'ailleurs aboutir sur cette contre-réforme catholique que l'on a au 17e siècle.
Tout à fait.
Et là, au 16e siècle, nous sommes en pleine guerre de religion avec une famille qui va un peu se déchirer et dans laquelle il va se passer pas mal de choses, un peu une saga familiale.
Ben, je suis en train de lire, et sans doute les auditeurs le lisent aussi, mais je suis sûre que ça vous intéresserait, peut-être l'avez-vous lu, vous, Annie de Groot, avec La colonne de feu de Ken Follett, qui se passe,
j'ai lu, bien sûr.
Et on est en pleine guerre de religion aussi. Voilà.
Oui,
J'ai pensé à vous en le lisant, je me suis dit, voilà.
Ken Follett l'a beaucoup fait au travers des reines.
Oui.
Et puis de son pays. Mmh. Là, justement, je vais le faire au travers de notre France du Nord, qui était la Flandre encore, et au travers d'une histoire un peu oubliée dans cette partie-là, parce que comme on a été toujours en bordure de la France, donc on avait tendance à l'oublier. Or, vous verrez dans ce roman-là qu'on a failli faire basculer dans le protestantisme une grande partie de l'Europe. Mmh. Et donc ça a été oublié, écrasé, je dis écrasé par Philippe II d'Espagne, qui est le fils de Charles Quint, et puis et rayé de la carte, en fait. Les choses qui ont été rayées de la carte. Et j'aime beaucoup dans mes romans historiques faire ressortir ou des personnages historiques qu'on a un peu oubliés, ou des périodes aussi.
Méconnues. Oui, tout à
voilà,
fait.
Voilà, méconnues aussi. Oui. Ou des lieux.
Et puis aussi, les us et coutumes. Et c'est magnifique. Exemple, pour conclure, dans D'Infinies Promesses, l'histoire de ces maîtres verriers qui remonte à avant, puisque l'un de vos livres aussi que j'ai lu, dont j'ai oublié le titre, vous savez, c'est un manuscrit que l'on retrouve dans une maison. C'est une jeune femme qui va passer des vacances dans une maison.
Les racines du temps.
Et là, tout commence, en fait. C'est l'histoire de ces femmes-là et tout commence là, en fait.
Oui.
Parce que D'Infinies Promesses, elles sont l'héritière de cette femme. Là.
Exactement. Mmh. Voilà.
Vous voyez, je vous lis, voyez.
Ah, mais écoutez, je suis enchantée, ravie et très touchée. Très, très touchée.
En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir reçue.
J'aurais
parlé avec vous pendant des heures. Je vais simplement rappeler les deux ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui. Mm-hmm. La Kermesse du Diable aux éditions Presse de la Cité et Ils ont aimé le Nord aux éditions Omnibus. Voilà.
Oui.
Et puis
on vous
retrouvera donc avec 2020. Sachez que ce micro vous est ouvert et vous êtes une éternelle invitée, chère Annie de Groot. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à tous.
Merci et à très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.